Non, les bactéries, comme celles qui vous donnent une bonne gastroentérite par exemple, se défendent pour subsister. Elles n'ont pas une seule fortification qui joue un rôle essentiel, comme on le pensait depuis des décennies, mais trois fortifications. Ce sont en fait trois murs d'enceinte qui collaborent entre eux. Joanne Montet, vous nous emmenez avec votre invité dans cet univers microscopique.
Bienvenue dans le monde des bactéries.
Et bienvenue dans le laboratoire de l'Institut de Duve de l'UC Louvain. Jean-François Collet est sur son terrain de jeu. Ce professeur vient de gagner une sacrée partie avec son équipe de recherche. Ils viennent de bousculer ce qu'on leur avait toujours appris sur la manière dont les bactéries se protègent contre le monde extérieur et donc aussi contre nos antibiotiques. Imaginez un château fort, la bactérie, avec trois murs d'enceinte. Mais il y en a un qui est considéré comme le plus fort, le plus résistant. On ne pense pas que les deux autres jouent vraiment un rôle. Enfin, on ne pensait pas. C'est cette vision du château qui s'écroule aujourd'hui. Jean-François Collet.
Ces bactéries-là, on nous avait toujours enseigné qu'elles avaient trois murs d'enceinte, ça c'était connu, mais qu'il y avait un mur d'enceinte qui était vraiment critique, qui servait d'exosquelette, qui donnait une rigidité aux bactéries, qui leur permettait de résister à des changements soudains dans l'environnement et tout ça. Les deux autres murs d'enceinte, eux, sont constitués de lipides, donc de graisse, ils sont plus fluides. On pensait que leur importance était plus relative. Et en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'en est rien. C'est que les trois murs d'enceinte fonctionnent ensemble, un pour tous, tous pour un, vraiment comme les trois mousquetaires.
Et comment concrètement, alors, peut-on voir une bactérie infiniment petite mettre en branle son système de défense ?
Au microscope, on prend des bactéries spécifiques qu'on appelle à gram négatif. Ça paraît opaque, mais pensez à la salmonelle, par exemple. Peut-être que votre intestin s'en souvient. On les met en contact avec différents antibiotiques et on observe image par image ce qui se passe. Pour voir encore plus en détail quelle est la couche de fortification qui se met en action pour que la bactérie se défende, on visualise chacune de ces couches avec une couleur fluo différente. Michael de Gelt est chercheur senior dans l'équipe.
Cette découverte, je pense qu'il manquait un petit son ici, c'est pas très grave. Cette découverte, on comprend bien ce qu'elle change dans la connaissance des bactéries, mais en quoi ça pourrait nous aider à nous soigner, Joanne ?
Eh bien, si on comprend comment la bactérie se défend, on peut comprendre comment déjouer ses défenses et mieux l'attaquer. Et donc, créer de nouveaux types d'antibiotiques. Alors pourquoi c'est nécessaire ? Parce que les bactéries résistent de plus en plus aux antibiotiques. Si on ne change rien, en 2050, cette résistance des bactéries aux antibiotiques pourrait être directement responsable de 2 millions de morts, principalement chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Mais si on trouve de nouveaux médicaments pour attaquer les bactéries, le journal de Lancet estime qu'on évitera 11 millions de morts d'ici 2050. Alors avec la découverte dont je vous parle ici, on ouvre la voie à la création de ces nouveaux antibiotiques. Jean-François Collet.
De nouveaux antibiotiques, oui. Avec un nouveau mode d'action, oui. Et aujourd'hui, plus qu'hier, on a besoin de nouveaux antibiotiques. Parce que l'antibiorésistance augmente de façon alarmante. Et si rien ne change, si de nouvelles molécules n'apparaissent pas dans les années qui viennent, bah d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on risque de retomber dans un monde où ce seront les bactéries qui feront la loi. Où l'humanité, les êtres humains, seront à nouveau sans défense contre les bactéries, comme ils l'ont été d'ailleurs pendant des millénaires en fait. Ça fait seulement 80 ans qu'on est parvenu à gagner de façon peut-être temporaire la lutte contre les bactéries. Mais maintenant, si on veut continuer à garder la main haute sur les bactéries, il faut absolument développer de nouveaux antibiotiques.
On imagine que cela prendra encore du temps et de l'argent, de la recherche aux médicaments, et ce n'est plus du ressort des chercheurs eux-mêmes. Ce que vous nous racontez ici en quelques minutes, Joanne, a d'ailleurs pris en soi plusieurs années.
Oui, et figurez-vous que cette découverte a été faite un peu par hasard, car au départ, ce n'était pas l'objet de la recherche. Et c'est suite à une erreur de manipulation que quelque chose d'imprévu est apparu. Incrédule, l'équipe a dû reproduire son expérience à de nombreuses reprises.
Ça a été un des projets les plus longs, je pense, du laboratoire. Enfin, on a commencé à travailler dessus en 2017,
oui.
Donc ça fait 8 ans. Donc, et au début, on s'est vraiment arraché les cheveux, on ne comprenait pas, parce que ça allait à l'encontre du modèle tel que tout le monde le connaissait. C'est un modèle qui est enseigné dans tous les livres de biochimie, de microbiologie.
C'est ça que vous aviez étudié comme étudiant.
Oui, c'est établi partout. Et même les meilleurs spécialistes du domaine, ils font référence évidemment à ce modèle. Et donc, au début, quand on a commencé à faire vaciller ce modèle, il y a un côté de nous qui se disait, mais non, c'est pas possible. Mais il y a un autre côté qui était était très excité et qui se disait mais si ça doit être ça, ce modèle ne peut pas être correct ou pas entièrement correct.
Et voilà, vous voyez la recherche, c'est comme une énigme, un escape game qui, au bout du compte, quand elle débouche sur de nouveaux traitements, peut sauver des vies.
Merci beaucoup, Joanne Montet, pour toutes ces explications.